Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Poumon bleu de la planète, l'océan est le partenaire nourricier essentiel à l'humanité. Mais il est devenu un gigantesque garde-manger. Surpêche, absence de réglementation efficace, pollution, techniques de pêche dévastatrices, gaspillage, ces ressources sont soumises à une forte pression et les réserves halieutiques s'épuisent. La protection des écosystèmes marins est plus que jamais devenue une question vitale. En a-t-on seulement conscience ou pris la mesure dans nos foyers et dans les instances supérieures, à Bruxelles ou ailleurs? Face à ces questions, des citoyens s'engagent, des voix se font entendre pour défendre une pêche durable, respectueuse, garante d'un avenir pour tous, pour les hommes et pour les espèces vivantes. À l'image du chef Christopher Coutenceau, propriétaire du restaurant portant son nom à La Rochelle, un quarantenaire auréolé désormais de 3 étoiles pour sa cuisine qui célèbre et respecte la mer. Bonjour Christopher Coutenceau.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de nos studios de France Bleu La Rochelle. Merci de vous être libéré. Et vous aviez, je le précise pour nos auditeurs, vous aviez été salué déjà par le prix de la gastronomie durable, premier du genre attribué par le guide Michelin. Et vous êtes co-auteur avec Patricia Kenouna et Philippe Vorès Santamaria du livre Christopher Coutenceau, cuisinier pêcheur, un livre édité chez Glénat. Et avec nous en studio, Frédéric Lemanac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et directeur scientifique de l'association Bloom, association fondée en 2005 par Claire Nouvian et qui s'est illustrée dans de nombreux combats gagnés en faveur des océans et de la préservation de ses ressources. Bloom, dont la mission est d'œuvrer pour le bien commun en créant un pacte durable entre l'homme et la mer. Et je précise que dans la partie L'œil du monde planète, le journaliste et rédacteur en chef des pages planète du journal Le Monde, Simon Roger, nous fera découvrir la figure du chef indien et chaman Devi Kopenawa et son combat au Brésil pour préserver l'Amazonie. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture, magazine préparé par Anaï Morales, avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé par Devi Travailleur, avec à la technique aujourd'hui Jacques Azubert et l'équipe technique de La Rochelle.
Service, on réclame 2 rougets, 4 Saint-Pierre, 2 huîtres saveur, 2 ormeaux. 5 sardines de la tête à la queue, 2 merlans, 3 civets de homard.
On va maintenant dévoiler notre premier nouveau 3 étoiles. C'est un homme qui est engagé pour la préservation de la ressource.
Une ode à la mer et un passionné de dingue. Moi, ça fait longtemps que je suis un
mec. Ça fait 3 ans qu'on parle de lui chaque année.
La passion, l'émotion et l'excellence. Ouais.
C'est les plus beaux jours de ma vie.
Ah oui?
Carrément, c'est beaucoup de transpiration, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de joie aussi, mais une remise en question perpétuelle. Et grâce aussi aux gars qui sont avec moi.
C'est un extrait du reportage diffusé sur France 2 le 1er février dernier. Christopher Coutenceau, une 3e étoile qui salue non seulement une exigence et un talent en cuisine, mais aussi votre démarche responsable et durable appliquée dans votre restaurant. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui, je pense que ça récompense tout un ensemble. Je pense que au niveau de 2-3 étoiles au guide Michelin, mais j'ai envie de dire comme toutes les cuisines devraient être. Pour faire un grand plat, faut utiliser les meilleurs produits. Donc, si on parle des produits marins, donc c'est d'une pêche éco-responsable, privilégier la pêche à la ligne et les légumes de la même façon. Je pense que c'est la base d'une vraie et belle cuisine.
En tout cas, cet art de la cuisine côté Atlantique, vous l'avez connu dès l'enfance avec votre père, Richard?
Oui, complètement. Parce que je suis né dans son premier restaurant, sa première gérance, où on dormait dans une chambre d'hôtel au-dessus de la cuisine. Donc c'était un petit peu mon terrain de jeu.
Et votre mère aussi était impliquée, hein, Maryse. Votre père s'installe en 84, c'est ça, dans ce bâtiment de la plage de la Concurrence?
Oui, voilà, l'ouverture du restaurant Coutenceau sur la plage de la Concurrence, 84, avec une première étoile qu'il avait déjà reçu aux France et Angleterre à La Rochelle, et puis en 85, la 2e étoile.
Et un lieu d'exception, on peut dire, hein, cette vue plein mer.
Ben voilà, cette vue, on parle de restaurant, on parle de déjeuner ou de dîner, mais ça va plus loin que ça, en fait. Je pense qu'il faut que ça soit une expérience, qu'on raconte une histoire, l'histoire des propriétaires, hein, donc de notre passion. Donc moi, la pêche, le surf, la mer, et bien sûr la cuisine. Et jusqu'au moindre détail pour atteindre la perfection.
Christopher Coutenceau, je pense qu'il faut aussi saluer votre binôme. Hein. C'est un duo à la tête de ce restaurant, donc racheté en 2007 avec Nicolas Brossard.
Donc oui, bien sûr. Donc Nicolas, qui est mon associé, directeur de salle et chef sommelier, qui s'occupe à la perfection avec une gentillesse naturelle de nos clients. 35 à travailler au restaurant pour faire 45 couverts à chaque service. Mais c'est vrai que les petites intentions, prendre soin du client, le confort et surtout raconter l'histoire de nos plats est vraiment très important.
Christopher Coutenceau, on sent quand même que vous avez aussi ce bagage de l'enfance. On a cité vos parents, mais on peut remonter un petit peu plus loin dans la généalogie, je crois. Votre grand-père André vous a initié à la pêche ?
Ah oui, depuis tout petit, à la pêche, et même plus que la pêche, le respect des ressources marines. Parce que c'est vrai qu'à l'âge de 3-4 ans, quand je partais pêcher avec mon grand-père, le merlan, le bar, et que je voyais remettre à l'eau des poissons vivants, je lui ai demandé, papy, pourquoi tu les remets à l'eau, pourquoi on les garde pas ? Écoute, celui-là, il est trop petit, il faut qu'il aille se reproduire, ou là, on en a pêché assez, on y retournera demain, ça suffit pour manger ce soir. Et voilà, c'est toute une culture, toute une éducation et un savoir-vivre et savoir-être.
On se pose la question, est-ce que déjà, à l'époque de votre grand-père, le sujet de la pêche durable et du devenir des océans était à l'ordre du jour ?
Non, pas du tout, parce qu'il y avait encore un stock qui était assez foisonnant. Hein. Je me souviens de parties de pêche quand même assez incroyables au niveau qualité, quantité et poids, au niveau des pièces de poisson. Et c'est vrai que moi, ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est que les mentalités ont quand même évolué. Hein. Moi, je pêche beaucoup au leurre, donc beaucoup aussi en oquille. Hein, on remet le poisson vivant à l'eau dans de bonnes conditions. Souvent, les anciens faisaient des pleins sacs hein, de poissons, même s'ils faisaient pas la taille légale de capture. Et aujourd'hui, on voit les 15-20 ans, ils pêchent presque qu'en no-kill, donc ils gardent presque aucun poisson. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution sur cette partie-là.
D'où votre engagement et d'où l'engagement aussi de celui qui est à vos côtés, à nos côtés dans l'émission. Frédéric Lemanac, je me tourne vers vous. Est-ce que vous-même, vous êtes un gamin de la mer ?
Un petit peu, moins que Christopher, je pense, parce que j'ai grandi en banlieue parisienne. Mais c'est vrai que j'avais la chance d'aller en Bretagne pendant les vacances. Donc j'aimais bien jouer avec mon épuisette pour capturer des petites crevettes, des petits poissons. Donc oui, je suis un petit peu un enfant de la mer quand même. Mon nom est quand même à consonance bretonne, je peux pas le cacher. Mais j'ai pas vécu au bord de la mer. J'y ai passé pas mal de vacances, mais c'est tout.
Et ensuite, c'est vraiment votre parcours de biologiste, de scientifique de la mer qui vous a vraiment amené à cet engagement ?
Oui, en fait, c'est un engagement qui a été assez tardif hein, parce que j'ai vraiment découvert qu'on pouvait travailler dans le domaine de la protection marine assez tardivement pendant mon master. Donc j'étais déjà à l'université depuis quelques années. Et c'est vrai que j'ai eu une révélation à ce moment-là où je me suis dit, tiens, en fait, c'est ça que j'ai toujours aimé et c'est ça que je veux faire. J'ai découvert qu'en fait, je pouvais avoir un métier dans ce domaine-là.
Alors c'est quoi la pêche durable ?
La pêche durable, c'est compliqué. C'est un mot qui est un peu galvaudé. Tout le monde l'utilise à tort et à travers, avec des dérives qu'on peut voir sur les labels qui se revendiquent de pêche durable, mais qui en fait n'en sont pas. La pêche durable, elle existe de manière assez marginale pour le moment. Elle existe, mais c'est une pêche qui va avoir un impact sur l'habitat marin qui est extrêmement limité, ou qui ne va pas avoir d'impact physique, en tout cas sur les habitats. Donc typiquement, le type de pêche que Christopher évoquait à la ligne, ça c'est pour nous une pêche qui est durable, puisque l'hameçon ne va pas avoir d'effet destructeur sur les coraux ou sur les éponges. Et ensuite, une pêche durable, c'est aussi une pêche qui va cibler le poisson qui est ramené sur le bateau ou sur la plage, donc qui n'a pas de capture qu'on appelle accessoire, qui ne sont pas commercialisés ou consommés. C'est vraiment cette équation-là, quoi. Pas d'impact ou très peu d'impact sur les habitats et une pêche qui est ciblée en termes d'espèces et de taille.
Christopher Coutenceau, c'est la définition que vous appliquez, en tout cas, vous, de cette pêche durable ?
Complètement, déjà. Bon, pour le milieu, pour le préserver, puis en prendre soin, parce que c'est important de prendre soin de ce qui nous entoure, mais aussi pour la qualité du produit, après, pour pouvoir le travailler.
Parce que vous ne travaillez, en plus, vous le précisez, hein, que des poissons même plus gros que la maille autorisée. Hein. Je crois que on peut citer les 42 cm prévus pour un bar, par exemple. Vous, vous allez au-delà, estimant que ça laisse suffisamment de temps pour les poissons pour se reproduire et donc respecter ce cycle de reproduction essentiel.
Bah oui, parce qu'un bar de 42 cm, tous ne sont pas encore reproduits pour la première fois. Donc moi, quand je pêche ou quand je vais à la criée tous les matins chercher mon poisson, on va privilégier des barres de 50 à 55 cm qui soient reproduits au moins 4 ou 5 fois.
Est-ce que vous êtes nombreux à la criée, justement? On se pose la question, hein, parce que c'est cette pratique que vous avez respectueuse aussi. Vous allez à la criée, vous faites vos choix. Est-ce qu'on y rencontre beaucoup de cuisiniers?
J'ai connu les premières criées, j'avais 3-4 ans, avec mon grand-père qui faisait le marché de poisson pour mon père et qui en même temps prenait un petit peu d'appât pour aller à la pêche le soir avec moi. Donc il m'emmenait à la criée avant de me déposer à l'école, parce que le temps était quand même compté. Et on faisait la queue, on attendait chez les mareyeurs, entre 30 et 45 minutes pour être servi. Et aujourd'hui, si vous venez avec moi, écoutez, on sera servi immédiatement.
Et des pêcheurs traditionnels autour de vous, il en reste encore ?
Écoutez, les pêcheurs artisans professionnels disparaissent quand même d'année en année parce qu'ils sont en pleine souffrance, hein, liés à la pêche industrielle qui est en train de vider les océans, liés aussi à la pollution qui est en train de détruire aussi les reproductions, donc avortement des poissons ou beaucoup de naissances de femelles à cause du réchauffement de l'eau. Et puis, ils sont obligés d'aller toujours de plus en plus loin. Donc, ils ont aussi des frais hein, sur leur bateau. Et puis, la taille de l'embarcation, des fois, ne le permet pas non plus. Et c'est en train de disparaître au fur et à mesure.
Frédéric Lemanac, on est effectivement avec ces pêcheurs traditionnels, hein, loin de la pêche industrielle qui nous a habitués à un autre goût hein, du poisson, c'est vrai, et dont vous dénoncez les méfaits sur les écosystèmes marins. En premier lieu, la pénurie de poissons. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux avec vous, très concret? Depuis une quinzaine d'années, il y a pénurie de poissons. Donc, quelles sont les causes et où en est-on aujourd'hui?
Alors, en fait, la pénurie, on la voit pas forcément quand on va faire le marché ou en poissonnerie, puisque les disparitions sont remplacées par des nouvelles espèces. Donc, on a vraiment une expansion de la pêche au niveau en surface. On a maintenant exploité la quasi-intégralité de la surface de l'océan, mais on va aussi pêcher le poisson plus profondément. On exploite de nouvelles espèces qui avant n'étaient pas du tout ciblées. Donc on a toujours une impression d'abondance, mais qui cache les signaux, les indicateurs scientifiques qui, eux, sont plutôt rouges. Et donc les chiffres qui sont publiés tous les deux ans par les Nations Unies sont assez évocateurs. On a plus d'un tiers des stocks de poissons au niveau mondial qui sont surpêchés. La situation en Europe est un peu similaire. On a des améliorations. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. On sait que quand on gère, les choses vont mieux rapidement. Ça a été le cas, par exemple, avec le thon rouge, qui a été très surexploité pendant des années, les années 90 et 2000. On parlait même de disparition du thon rouge. Alors, c'était un peu abusé. On ne peut pas faire disparaître une espèce comme le thon rouge, comme ça, en l'espace de quelques années. Mais en tout cas, il n'y en avait pratiquement plus. Et en l'espace de quelques années de bonne gestion, on voit la population de thon rouge qui s'est reconstituée à des niveaux assez incroyables. Donc il faut aussi souligner ces aspects positifs. Quand on gère bien, les choses vont beaucoup mieux très rapidement. Mais c'est vrai que la situation en Europe continue d'être une situation de surpêche. On a un effort de pêche, donc la capacité technologique et humaine qu'on met en œuvre pour aller pêcher le poisson qui augmente, qui réaugmente. Il y a eu des améliorations dans les années 2000 et là on retourne à la hausse. Et on a aussi des améliorations technologiques qu'il ne faut pas oublier. Parce que même si un bateau devient plus petit ou a un moteur qui est moins puissant, l'évolution technologique, par exemple sur les sonars ou sur les techniques, les méthodes de pêche, qui permettent d'augmenter la capacité qu'on a à capturer le poisson, font qu'en fait on a un effort de pêche, une capacité technologique qui augmente d'année en année, et des captures qui, elles, stagnent, voire diminuent. Donc on continue de tirer très fortement, trop fortement sur la corde.
D'où vos combats contre la pêche en eau profonde en dessous de 800 mètres, la pêche électrique qui est interdite en France désormais, mais il faut encore se battre contre certains pays de l'Union européenne.
Alors la pêche électrique, elle est même interdite au niveau européen. C'est un règlement qui est entré en vigueur en août 2019. Et c'est vrai que sans le combat de Bloom et des citoyens, et en collaboration avec les pêcheurs artisans de toute l'Europe, la pêche électrique aurait été autorisée dans toute l'Europe. Donc il y avait vraiment un risque systémique extrêmement grave pour les pêcheurs artisans. Donc ça fait partie des succès de l'association Bloom, effectivement, avec aussi l'interdiction de la pêche profonde. Mais on voit très bien que les industriels cherchent toujours des méthodes de pêche plus efficaces parce qu'ils sont dans une, toujours dans le même schéma de diminution des coûts, de maximisation des profits à court terme. Et c'est ça qui met les pêcheurs artisans dans le rouge. La pêche électrique a été extrêmement révélateur sur ce sujet, puisque on voyait très bien, on voit toujours d'ailleurs dans les chiffres économiques ou sociaux qui nous sont transmis par les pêcheurs artisans du nord de la France ou d'Angleterre, que dans les zones où la pêche électrique est active, en fait, la présence même des pêcheurs électriques signe quasiment l'arrêt de mort des pêcheurs artisans. C'est une corrélation qui est absolument parfaite entre l'arrivée des pêcheurs électriques et la disparition des pêcheurs artisans.
Christopher Coutenceau, si on comprend bien, donc il y a quand même des normes, mais visiblement, le drame se poursuit. En tout cas, cette façon de puiser dans les ressources de l'océan perdure. Pour vous, l'Europe est la première responsable ou quelles sont les premières responsabilités ?
Les premières responsabilités, c'est, je pense qu'il faudrait revoir déjà plusieurs législations hein, sur les tailles légales de capture, par exemple, et les périodes de reproduction aussi, pour que le poisson ne soit pas pêché. Si on prend le maigre, qui est un poisson migrateur de chez nous, moi, amateur, j'aurais une taille légale de capture, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, un professionnel n'a pas de taille légale de capture sur le maigre. Donc, comment vous dire, pêcher des poissons qui ne se sont jamais reproduits. Donc c'est comme votre frigo, vous mangez, mais vous refaites pas les courses. Donc au bout d'un moment, excuse-moi Frédéric, mais faut pas être un scientifique pour en déduire que on va détruire tout le stock. Et il faudrait revoir tout ça. Et après la pêche industrielle, je pense qu'il faut protéger nos artisans. Je pense que c'est un vrai métier. Aujourd'hui, quand je vois des enseignes de supermarchés qui ont des flottes de pêche énormes, je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Vendez les produits de l'industrie et de l'artisan, faites vos magasins et laissez les pêcheurs artisans faire leur métier et pêcher. Au bout d'un moment, de vouloir tout faire et tout détruire pour une histoire de profit, je pense que c'est un petit peu déplacé.
En tout cas, ces artisans pêcheurs ne s'en sortiront pas sans des subventions, Frédéric Lemanac. Est-ce que c'est le combat que vous menez aujourd'hui? C'est de faire en sorte que cet argent qui quand même est donné massivement au monde de la pêche soit peut-être mieux orienté pour une pêche durable, pour que justement il y ait les bonnes pratiques?
Oui, alors notre combat, il n'est pas de donner des subventions aux pêcheurs artisans, puisque si pêche durable il y a, théoriquement, on n'a pas besoin de financer l'outil de travail de ces pêcheurs artisans. Le problème, bien sûr, c'est que les subventions publiques financent la destruction des emplois et de l'environnement. Donc c'est le problème de volonté politique qui est évident dans le secteur de la pêche, qui est aussi évident dans d'autres secteurs, mais ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, qui orientent les décisions de politique publique, de gestion de la pêche, ce sont pas les pêcheurs artisans, qui pourtant représentent la vaste majorité des unités de pêche au niveau européen. Ceux qui tirent les rênes des décisions politiques, ce sont les gros industriels, parce qu'ils ont des aides juridiques, parce qu'ils sont, ils se coordonnent, parce qu'ils savent parler entre différents pays. Et donc on a une volonté politique qui est absente pour protéger les pêcheurs artisans, mais qui au contraire va permettre aux pêcheurs industriels qui détruisent l'emploi, qui détruisent les habitats marins, les populations de poissons, de récupérer les quotas, c'est un gros problème, et de récupérer les subventions publiques. Donc on a vraiment une concentration des ressources financières et naturelles entre les mains de quelques industriels au détriment du bien commun.
Sur cette politique, est-ce que la France est vertueuse ?
Pas du tout. C'est un fait. Que ce soit sur l'allocation des quotas ou sur l'allocation des subventions, la France n'est pas du tout vertueuse. Donc on a des beaux discours sur la transparence pour tendre la main aux pêcheurs artisans, faciliter la communication avec la société civile. Au sujet des subventions, l'association Bloom a porté plainte contre l'État français en février 2019 pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Paris parce que l'administration française refuse de transmettre les données, les informations sur les bénéficiaires de ces subventions publiques alors que c'est totalement public et ça a été jugé d'ailleurs comme étant des informations à caractère public. Donc là, on a un gouvernement et une administration pas du tout dans la transparence et dans l'allocation des subventions vers des pêcheurs artisans qui vont créer de l'emploi, qui vont pêcher du poisson qui va être très bien valorisé, qui vont prendre soin de l'environnement, au contraire. Et par rapport à la politique d'allocation des quotas, c'est pareil. On a une allocation des quotas, donc des droits de pêche, qui est féodale. Et c'est simplement les gros industriels qui vont récupérer la grosse part du gâteau et les artisans ne pourront rien pêcher.
Donc on comprend clairement par vos paroles à tous les deux que ce côté obscur qui règne dans le monde de la pêche, c'est aussi un monde avec des enjeux financiers énormes, des lobbies, des flottes de pêche, grande distribution et toujours à la clé ce commerce. Il faut quand même préciser pour avoir une idée qu'on est passé d'une consommation mondiale de 9,9 kilos de poissons par personne et par an en 1960 à quasiment 20 kilos aujourd'hui. Or, on va en parler dans un instant, cette question de la pêche durable, elle est aussi, au-delà de la préservation des ressources halieutiques, une question de santé publique. Je vous propose d'écouter le reportage qui a été diffusé déjà le 23 janvier 2015. C'était il y a 5 ans sur France 2.
Alors, nous sommes dans un laboratoire spécialisé dans l'analyse des substances chimiques dans l'alimentation, dans les poissons gras en général.
Et en particulier dans le saumon. Le premier poisson consommé en France.
Ils ont cette propension à capter les substances chimiques qui aiment le gras, et c'est la raison pour laquelle, peut-être, ils font l'objet de davantage d'analyses.
Ces substances chimiques, ce sont des polluants qui peuvent être cancérigènes, comme les dioxines, les PCB autrefois utilisés dans les isolants, ou encore les métaux lourds. Les contrôles permettent d'écarter parfois des lots contaminés. Mais y a-t-il une différence de pollution entre poissons d'élevage et poissons sauvages ?
Un poisson d'élevage sera conforme au regard des limites réglementaires. C'est quasiment aujourd'hui garanti en Europe. Pour des poissons sauvages, tout dépendra du mode de consommation, du lieu de vie du poisson. S'il vient d'Alaska ou du Pacifique Sud, il sera certainement très peu contaminé. S'il vient de la Baltique, c'est une mer quasiment fermée. La pollution environnementale est fatalement plus forte.
Pour éviter d'avaler trop de polluants, les autorités sanitaires préconisent donc de manger du poisson gras une seule fois par semaine.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Christopher Coutenceau, je me tourne vers vous. Donc, on l'aura compris, problème de métaux lourds, du mercure, du plomb, des PCB que l'on retrouve dans des poissons. L'ANSES avait déjà prévenu, il y a quelques années d'ailleurs, en privilégiant la consommation de petits poissons bleus aux autres qui auraient pris plus de temps dans la mer. Voilà, il est question de santé publique plus que tout.
Oui. Après, c'est vrai que je pense qu'il faudrait varier aussi les espèces à consommer niveau produits marins. Et c'est ce qui est un peu compliqué, c'est de les trouver, d'avoir le sourcing. Et on se bat beaucoup au quotidien pour valoriser d'autres espèces peu connues. Et des poissons fabuleux comme le taco, comme la vive, comme la vieille, parce qu'on parle du bar, on parle de la sole, du turbo. Mais il y a plein d'autres espèces qui ne sont pas pêchées et consommées. Donc déjà, je pense qu'il faudrait se pencher là-dessus. Et puis, deuxième chose aussi, après poissons d'élevage, on va parler pollution de leur habitat quand même. Parce qu'au bout de 3 ans, les filières saumon sont obligées de déménager parce qu'il n'y a plus un coquillage ou un ver de sable qui vit en dessous ces filières. Et puis, ils sont tellement nombreux qu'on va peut-être aussi les arroser un petit peu aux pesticides pour tuer tout ce qui est poux de mer. Et puis, moi, j'ai eu la chance, ou pas, de visiter en Norvège des filières à saumon label rouge. Donc on met un label rouge sur un produit d'élevage qui est assez dangereux quand même pour la santé aussi. Et il y a des catalogues pour choisir la couleur des chairs du poisson selon les pays où vous vous trouvez.
Mais qu'est-ce qui est le mieux selon vous justement ? C'est si la jungle des labels est compliquée pour le consommateur. Comment faire ? Est-ce qu'il vaut mieux consommer du poisson sauvage plutôt qu'au poisson d'élevage ? Vos conseils à vous, Christopher Coutenceau ?
Poisson sauvage. Et puis, comme je dis, de varier les espèces surtout pour apporter un équilibre. Parce qu'on parle de poissons, mais il y a aussi tout ce qui est céphalopode, comme les sèches, les encornés. Mais il y a aussi les coquillages qui sont très peu consommés dans un foyer. On va dire que le poisson coûte cher. Oui, certains poissons coûtent cher. Et vous prenez un joli taco de retour de pêche, ça va coûter quoi de 2,50€, 3€ le kilo. Vous achetez un kilo de coque, vous en avez pour 3€. Donc oui, ça coûte moins cher qu'un steak haché surgelé.
Et vous, quels sont ceux que vous refusez absolument de mettre à la carte ?
Écoutez, nous déjà, on va respecter les périodes de reproduction et les périodes de frais. Je vois l'année passée, on a très 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 peu travailler le bar. On a dû le travailler sur 3 semaines à tout casser. Et après, on va valoriser les espèces dites peu nobles, parce que ce mot noble ou peu noble qui a été inventé par l'être humain est un vrai désastre aujourd'hui pour les mentalités. et ben on va mettre, comme je vous dis, de la vieille, qui est de la famille du mérou de l'Atlantique, un poisson fabuleux. Après, certes, faut savoir le travailler pour le valoriser. On va travailler le merlan, on va travailler la vive, on va travailler le taco, le grondin, des poissons qui pullulent dans nos eaux parce qu'ils ne sont pas pêchés et qui sont tout simplement délicieux.
Frédéric Lemanac, comment pour les consommateurs s'y retrouver? Parce qu'on a bien compris que des labels n'étaient pas forcément des labels à suivre, et il y en a plein. Donc, quelles règles peut-être de base leur donner? Est-ce que sur le site de Bloom ou ailleurs, il y a à disposition déjà des listes, enfin des poissons à ne pas acheter parce qu'ils sont dans une liste rouge justement et en danger?
Oui, en fait, nous, on est plutôt partisans d'avoir des listes rouges, voire des listes noires de poissons à éviter. On n'a pas de liste verte avec des poissons à valoriser. Donc, sur les listes rouges, on va avoir les grands prédateurs comme les espadons ou les requins. Et ensuite, on va aussi avoir les espèces profondes comme l'empereur, le grenadier de roche, le sabre noir, toutes ces espèces qui vivent très profond, qui se reproduisent très tardivement et qui forcément vont être très sensibles à la pêche. Et après, effectivement, on est donc sur notre site internet, on a bloomassociation.org, nous avons un onglet qui s'appelle Mieux consommer. Sur cette page-là, on a effectivement des clés de compréhension pour le citoyen qui souhaite consommer du poisson de manière un peu plus durable. Et celles données par Christopher sont évidemment sur notre page, donc diversifier la consommation de poissons.
Privilégier le sauvage aux poissons d'élevage, les labels bio par exemple, parce qu'il y a des poissons élevés avec ce label bio ont été aussi décriés.
Oui, parce que les labels donnent certaines garanties, mais ne donnent pas toutes les garanties. Donc par exemple, sur les labels bio ou sur les labels rouges, vous allez avoir des garanties sur la qualité de l'eau ou sur la présence ou non de farine de poisson dans l'alimentation. En revanche, ça ne donne pas du tout d'informations sur la saison du poisson, sur le caractère industriel. Tout ça, vous n'avez pas ces informations-là. Donc c'est vrai que ça donne certaines garanties, ça ne donne pas toutes les garanties. Et donc pour nous, la consommation durable de poissons, elle passe par moins consommer, mais mieux consommer. Et donc pour mieux consommer, on doit diversifier les espèces qu'on consomme, arrêter de consommer toujours du saumon, de la crevette et du cabillaud, et aller vers les autres espèces qui sont, comme disait Christopher, moins nobles, mais qui sont tout aussi bonnes, voire meilleures, et qui sont en plus sont moins chères. Et aussi de regarder la manière dont le poisson a été pêché. Et donc là, c'est compliqué, mais il faut accepter que le monde est complexe. Un label, ça ne donne pas de garantie, donc il faut connaître la méthode de pêche. Elle est obligatoire sur les étiquettes en Europe depuis décembre 2014, et donc il faut s'en servir. Si la méthode de pêche n'est pas indiquée, vous pouvez le demander à votre poissonnier, c'est obligatoire. Et donc, il faut favoriser le poisson qui a été pêché à la ligne, au casier, au filet, à la main, plutôt que du poisson qui a été pêché au chalut de fond, par exemple.
Jean-Louis Aubert, c'était Alter Ego, le choix de Christopher Coutenceau, et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, avec pour thème aujourd'hui la pêche durable de la mer à l'assiette. Pourquoi et comment préserver les ressources halieutiques dans le respect de l'équilibre des écosystèmes marins et de l'océan, le poumon bleu de la planète. Nous sommes avec le chef 3 étoiles Christopher Coutenceau, propriétaire du restaurant portant son nom à La Rochelle, avec nous depuis les studios de France Bleu La Rochelle, et puis avec toujours Frédéric Lemanac, biologiste et directeur scientifique de l'association Bloom. L'association, je le rappelle, qui œuvre pour le bien commun en créant un pacte durable entre l'homme et la mer. Mais tout de suite, rendez-vous avec l'œil du monde planète. Nous prenons la direction de la rédaction des pages planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Et dans l'œil du monde planète aujourd'hui, c'est Simon Roger, le rédacteur en chef des pages planète, qui va nous faire découvrir une figure emblématique des causes environnementales. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors votre choix s'est porté sur un chef indien, chaman, leader du peuple Yanomami du Brésil. Il s'agit de Davy Kopenawa, que vous avez rencontré avec le journaliste Nicolas Boursier. Un homme qui visiblement a subi déjà depuis l'enfance des atteintes de la part de ceux qu'il nomme « homme de la marchandise ». Quel est son combat aujourd'hui ?
Le combat de Davy Kopenawa, en fait le combat de toute une vie, c'est le combat contre la destruction de la forêt amazonienne par les trafiquants de bois et les orpailleurs clandestins qui pillent ces régions. Le peuple Yanomami dont il est issu, donc le peuple des forêts, se trouve au nord du Brésil, à l'extrême nord du Brésil, à la frontière avec le Venezuela. Donc Davy Kopenawa, qu'on a rencontré avec Nicolas Boursier, donc du service international du journal, il a aujourd'hui 54 ans, un regard tout aussi intense que quelques années plus tôt et surtout une détermination intacte. On a eu l'occasion de discuter avec lui pour l'ouverture donc à la Fondation Cartier à Paris d'une rétrospective de la photographe Claudia Andujar, qui elle aussi a consacré la plus grande partie de son existence à la défense de ces Indiens Yanomami. Le jeune Davy Kopenawa a vu, quand il était donc enfant, son groupe décimé par les maladies, qui sont en fait les maladies qui ont été propagées par les Blancs. Il a même d'ailleurs contracté la tuberculose et surtout il a commencé à ce moment-là à s'interroger sur, vous parliez du peuple de la marchandise, effectivement, donc de ces notamment orpailleurs, ces trafiquants de bois précieux qui pillent donc les ressources amazoniennes. Juste pour vous donner un chiffre, dans les années 80, c'est près de 30% des Yanomami qui ont péri en raison de ces maladies donc importées par les Blancs. C'était notamment au moment de la construction de la transamazonienne donc dans cette région du Brésil, et aussi en raison des massacres commis par les garimpeiros, les fameux orpailleurs clandestins du Brésil.
Eh oui.
C'est donc le moment où vont émerger ces revendications pour une démarcation des terres indigènes, et c'est aussi le moment où vont émerger des personnalités pour porter ces demandes, comme Davy Kopenawa. On le retrouve notamment en 1991, qui est très très rare pour un chef amérindien. Il part aux États-Unis avec Claudia Andujar, qui partage son combat. Aussi une troisième personne qui est aussi dans ce récit, qui est un anthropologue français qui suit ces Yanomami depuis très longtemps, qui s'appelle Bruce Albert. Donc il part notamment aux États-Unis, rencontrer le secrétaire général de l'ONU, qui à l'époque donc n'avait pas ce genre de discussion avec des chefs amérindiens. Et c'est donc grâce à ce plaidoyer incessant, peut-être aussi grâce aux photos d'ailleurs de la photographe Claudia Andujar, que le Brésil va, donc sous pression aussi de l'extérieur, finalement officialiser la démarcation du territoire. Donc c'est 96 000 km² de forêt qui vont être accordés aux Yanomami. Et ça se passe en 1992, juste avant le sommet de la Terre de Rio. Donc c'est évidemment aussi un signe fort. Ce que je voulais dire enfin, c'est que cette victoire de Davy Kopenawa, c'est une victoire importante évidemment, mais c'est pas la fin des exactions qui reprennent dès l'année suivante, dès 1993, avec un autre massacre. Et cette année, donc début 2020, on considère qu'entre 20 et 25 000 chercheurs d'or illégaux sont présents sur le sol Yanomami. Donc c'est un combat qui ressemble un peu à un combat sans fin que mènent Davy Kopenawa et ses proches.
Donc on comprend en tout cas à travers l'article signé Nicolas Boursier que ces trafiquants, ces orpailleurs ont des soutiens haut placés, politiques comme d'affaires. Jair Bolsonaro pourrait-il favoriser une offensive finale contre ces peuples indigènes ?
C'est un peu ce que nous dit Davy Kopenawa dans l'entretien. Et ce qu'il nous dit d'abord, c'est que la violence et l'impunité ont franchi une sorte de palier supplémentaire avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Il n'y a plus aucune retenue comme pouvait le faire pendant un certain temps le pouvoir brésilien. Et le discours tenu par le chef de l'État du Brésil actuellement est un discours ouvertement anti-indien et très très radical. Juste pour info, l'une des premières mesures qu'a pris Bolsonaro en arrivant au pouvoir donc en janvier 2019 était une mesure pour affaiblir la fondation de l'Indien, ce qu'on appelle la FUNAI au Brésil, et aussi pour confier cette question qui est vraiment très très sensible, ce qui est la question des territoires, de la démarcation des territoires, la confier au ministère de l'Agriculture, qui est tenu par Teresa Cristina da Costa, qui est une parlementaire et qui est en fait la plus grande défendeuse des intérêts de l'agro-business au Brésil.
Alors en un mot, parce qu'on entend aussi la voix d'autres caciques, Raoni notamment, comment est-ce que les uns et les autres peuvent faire bouger les choses, bouger les lignes ? Est-ce qu'il faut parvenir à un tollé général et international ?
Alors c'est effectivement les mots qu'il emploie dans l'entretien. Il nous dit aussi il faut que le monde entier se lève pour faire du bruit. L'idée, c'est de mettre la pression sur les autorités brésiliennes pour qu'elles respectent ces populations, pour qu'elles expulsent les trafiquants. C'est pas très compliqué si le pouvoir politique voulait le faire d'expulser manu militari les trafiquants qui sont sur ces territoires. Par rapport à d'autres caciques, quelqu'un comme Arauni, par exemple, lui, à aucun moment ne parle de l'idée de s'armer contre les Blancs. Il prône surtout l'union entre les peuples indigènes et tout ce qui pourrait rendre visible la lutte des Yanomami. Donc l'exposition, qui était le cadre de notre discussion avec lui, cette exposition à Paris jusqu'au mois de mai, peut être une occasion. Il y a une autre occasion, c'est que ce même chef amérindien a reçu en fin d'année 2019 ce qu'on appelle le Right Livelihood Award, donc une sorte de prix Nobel des associations qui est remis donc en Suède et qui est aussi un autre petit écho. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire vivre ce combat quand on est loin du Brésil comme nous le sommes nous aujourd'hui. Et ce qui est important aussi, et je crois que c'est peut-être l'autre sens du message de David Kopenhauer, c'est qu'il faut, au-delà des respects des peuples indigènes, c'est qu'il faut respecter la forêt, la nature, la planète. Et lui insiste et met en garde contre l'épuisement des ressources. Il a cette phrase, et je vais juste terminer par cette phrase-là que je trouve assez belle. Donc il faut lutter contre ceux qui veulent arracher toutes les racines de la terre. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'à force d'extraire tous les minerais, ils vont faire tomber le ciel. Et je pense que cette parole-là, en tout cas, elle mérite qu'on en parle et je pense que ça me paraît une parole précieuse et assez universelle.
Eh bien, je me tourne tout de suite vers nos invités justement pour voir si cette parole leur parle. Frédéric Lemanac, peut-être ?
Mais bien sûr qu'elle parle et en fait, on a aussi là un lien avec la mer puisque là, on parle de minerais et à force d'exploiter le minerai, on va finir par faire tomber le ciel. C'est vrai aussi pour la mer. Actuellement, il y a une force de lobbying colossale qui est en train de se mettre en place pour l'exploitation des minerais en grande profondeur. Et donc, on nous vend ça comme une obligation parce que sinon, nous n'allons pas pouvoir rouler en voiture électrique ou avoir un nouveau téléphone ou déployer la 5G. Et donc, on a besoin d'aller ratisser le fond de l'océan pour le manganèse, le cobalt, tous ces minerais. Et en fait, on a vraiment besoin, effectivement, d'arrêter, de réfléchir un petit peu, de revenir en arrière. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un réseau 5G? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un réseau de voitures électriques? Non, on a besoin de développer le vélo, la marche à pied. On n'a pas besoin d'avoir des voitures individuelles. Et donc, c'est bien sûr qu'on voit une convergence des luttes, et j'emploie le mot lutte à dessein, enfin, on sent bien que la tension est en train de monter, donc c'est plus simplement maintenant des discours pour ou contre tel ou tel sujet, ça va être de plus en plus aussi des luttes parfois armées. On voit que dans le monde entier, les protecteurs de la nature se font assassiner, il y en a encore eu un qui s'est fait assassiner au Mexique, il y a quelques jours, qui protégeait les papillons monarques, qui font des migrations sur tout le continent américain, qui sont absolument majestueuses. Bon, bah, cette personne a été assassinée, et c'est pas la seule. Donc, on a vraiment une convergence des luttes et une intensification des luttes, justement, contre cette folie de la production au niveau mondial.
Christopher Coutenceau, une réaction peut-être. Je précise que David Kopenhauer, donc ce chef indigène, a aussi une autre phrase dans laquelle il dit que les hommes finalement détruisent l'Amazonie parce qu'ils ne savent pas rêver.
Oui, oui, oui. Puis ils ne savent pas rêver, ou ils rêvent peut-être d'autre chose, peut-être d'énormément d'argent, je pense. Mais de toute façon, je pense que l'homme va être responsable et va nous mener à sa propre perte. De toute façon, parce que demain, sans forêt amazonienne ou sans les océans, c'est tout simplement la Terre et la planète qui va disparaître. Alors après, moi, je suis pas un fou de dernières nouveautés. Hein. J'ai même un peu de mal à me servir de mon téléphone. Donc moi, du moment que je puisse appeler et décrocher, ça me suffit largement. Aujourd'hui, on vit dans une surconsommation. Il faut tout de suite, maintenant, et en mode jetable. On va s'en servir pendant 3-4 mois, puis après on passe encore à autre chose, ainsi de suite. Et je pense qu'il faut freiner tout ça et revenir à l'essentiel de l'humanité, de l'être humain, tout simplement.
Alors je remercie Simon Roger. Merci Simon.
Merci à vous, bonne émission.
Bien sûr, on renvoie nos auditeurs à la Fondation Cartier avec la rétrospective de la photographe Claudia Andujar, notamment. Et on renvoie aussi à l'article signé Nicolas Boursier à retrouver sur notre site et sur le site du Monde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Ils sont étudiants en BTS, pêche et gestion de l'environnement marin. Dans leur filet, ils remontent les mailles de la chaîne alimentaire jusqu'au plus petit, le plancton.
Ouais, c'est parfait, c'est parfait.
Tous ces futurs marins apprennent ainsi le cycle de la vie.
Si à la base il n'y a pas de phytoplancton ou de plancton, bah, il n'y a pas de poisson après. Donc c'est un tout, c'est une chaîne alimentaire et on est au bout. Donc s'il n'y a pas les premiers éléments, il n'y a plus rien après.
Ils seront techniciens, pêcheurs. L'intérêt est qu'ils comprennent qu'ils sont sur le même bateau.
Le pêcheur qui s'occupe de rien d'autre que pêcher, c'est fini. Enfin, dans l'avenir, ce sera un pêcheur gestionnaire ou co-gestionnaire du milieu, savoir exactement comment ça fonctionne pour mieux le gérer.
Le lycée de la mer est implanté à Sète, premier port de pêche en Méditerranée. Beaucoup de petits chalutiers, mais aussi des monstres marins, ces thoniers, ces neurs, qui écument les mers à la recherche de thon rouge. La ressource n'est pas inépuisable, les élèves l'ont compris aujourd'hui, et c'est leur intérêt de bien la gérer.
On pêche plus comme avant, c'est plus non plus les mêmes quotas, c'est plus les poissons ont même diminué de taille, et il faut faire avec.
C'était un reportage diffusé le 9 décembre 2015 sur ce lycée de la mer de Sète dans l'Hérault. Christopher Coutenceau, on aura compris que vous êtes un chef cuisinier militant, donc vous militez aussi chez Bloom ou encore dans l'association L'œillet des dunes, on peut la citer, l'association sur l'île
Bien
de Ré.
Sûr.
Et donc vous avez cette façon aussi de vous engager, d'interpeller avec des chefs donc interpellés pour boycotter la pêche électrique. Il y a eu un manifeste publié en 2014 aussi pour une conception durable de l'alimentation. Mais est-ce que vous intervenez, alors il faut avoir du temps aussi, pas facile avec la cuisine, mais est-ce que vous intervenez auprès d'élèves, d'écoles? Ces écoles de pêche, elles forment quand même les pêcheurs de demain.
Oui, après bon, que ce soit école de pêche ou école classique, collège, lycée, primaire, maternelle, ça m'est arrivé d'intervenir pour expliquer, pour faire voir aussi, parce que c'est toujours intéressant d'en parler, mais de faire voir pour mieux comprendre, je pense que c'est important. Et oui, il nous arrive de temps en temps de se déplacer pour agir, parce que encore une fois, tous les matins, je suis à la criée, je vois cette diminution de stock et de taille et de d'espèces qui c'est vraiment alarmant, et je me dis, ça va tuer la pêche artisanale, ça va tuer la vraie restauration, ça va tuer plein de métiers, et c'est tout simplement pas possible.
Frédéric Lemanac, ces écoles de pêche, elles ont ce rôle à jouer aussi par rapport à la pêche durable?
Bien sûr qu'elles ont un rôle important, puisque c'est les futurs pêcheurs ou les futures personnes impliquées, en tout cas dans la filière, dans la commercialisation du poisson, donc elles ont un rôle majeur. Nous, on n'est pas malheureusement impliqués dans ces formations-là, on n'a pas le temps déjà, d'une part. Ça nous arrive d'être présent dans des universités ou quelques écoles autour de Paris, mais c'est vrai qu'on ne peut pas malheureusement être partout. D'autres le font, et c'est vrai qu'on voit certaines dérives aussi dans les formations. Alors c'est vrai dans la pêche, avec par exemple des labels pêche durable qui ne sont pas du tout durables, qui vont très bien intégrer les filières de formation. C'est vrai aussi avec les banques qui vont aller expliquer aux écoles primaires comment investir et demander des intérêts aux petits copains pour acheter des bonbons. C'est vrai aussi avec les chasseurs qui vont expliquer qu'ils sont les premiers protecteurs de la biodiversité. Donc bien sûr qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus présent, qu'il y ait beaucoup plus d'associations de protection qui soient présentes dans ces formations-là, mais ça demande beaucoup de temps, donc c'est pas fait malheureusement.
Et de votre côté, Christopher Coutenceau, est-ce que votre démarche de promouvoir les produits de la mer et de saison dans le respect de l'environnement et du métier justement des pêcheurs a fait école parmi les cuisiniers, les grands chefs? Je rappelle que vous avez été formé auprès de Grand Toc, vous-même, Jean Bardet, Michel Guérard, Joël Robuchon, Guy Martin et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous avez peut-être ou participé à ouvrir une voie, ou vous êtes mis vous-même aussi dans les pas de certains?
Ouvrir une voie, je sais pas, mais c'est un travail en commun. Je vois le guide Michelin qui a lancé ce prix éco-responsable et cet œillet vert qui récompense une cinquantaine de chefs en France sur leurs pratiques. Voilà, on essaye de faire connaître, de faire savoir ce qui se passe un petit peu dans notre domaine, qui est la mer, voilà. Et ce qui est satisfaisant, c'est que ça avance et qu'on marche main dans la main avec mes confrères et collègues, et que je pense que c'est le début d'une petite révolution alimentaire et même plus qu'alimentaire. Moi, je vois tous les matins la criée, on prend des bacs de la criée qu'on ramène le lendemain. On ne touche plus au polystyrène, on ne touche plus au plastique. voilà, on essaye de d'en prendre compte le plus possible et on sensibilise aussi notre personnel et si toutes les grandes maisons et tous les restaurants commencent à pratiquer de la sorte, voilà, c'est que du point positif.
En tout cas, ce problème de la surpêche et donc des méfaits hein, sur l'environnement, sur ses ressources, on les retrouve à l'échelle internationale, mondiale. Est-ce que vous, en vous déplaçant quand même, parce que vous échappez un petit peu de Charente-Maritime, est-ce qu'il y a, selon vous, peut-être des pays qui vous semblent plus vertueux ou qui pourraient nous inspirer ?
Si on prend les États-Unis, par exemple, il y a quand même une police de surveillance et qui ne rigole pas. Si vous pêchez plus de 3 barres rayés américains, et qui, si en plus ils ne font pas la taille, donc votre bateau va être saisi, le véhicule qui tire le bateau va être saisi, vous passez au tribunal, mais avec une amende digne de ce nom. Et aujourd'hui en France, moi la dernière fois que je me suis fait contrôler, c'est il y a 14 ans. Et je sors tous les week-ends.
Frédéric Le Manac, c'est le problème, ça ? Peut-être que, au-delà des questions à l'échelle européenne, hein, dont nous avons parlé dans l'émission, des questions de subvention, de pression, de lobby, etc., il y a la question de la surveillance et des contrôles ?
Bien sûr, je pense qu'il y a assez de lois. On a le bagage législatif pour bien faire les choses. Le problème, c'est le contrôle et la mise en œuvre de ces lois. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est en cours au niveau européen, puisque on est en train de négocier le futur fonds européen aux affaires maritimes et à la pêche. Donc c'est plus de 6 milliards d'euros qui vont être alloués entre 2021 et 2027. Donc c'est pas énorme par rapport à des budgets pour des choses autrement plus nécessaires, entre guillemets, comme l'armement par exemple, mais c'est quand même des budgets qui sont colossaux. Et on a en parallèle un règlement qui est aussi en négociation sur le contrôle, pour s'assurer que les règlements sont respectés, que les maillages sont respectés, que les moteurs ont la bonne puissance. Et il faut financer ce contrôle-là, sauf que les États ne veulent pas financer. Et donc on a systématiquement un problème de mise en œuvre des lois. On a les lois qu'il faut, mais on ne contrôle pas. Et donc, ça se voit bien sûr en mer, puisqu'il y a de la triche, il y a des sous-déclarations, il y a d'utilisation de méthodes de pêche illégales. Et donc, c'est vrai que les États-Unis, pour ça, sont quand même dans les bons élèves. Ils savent contrôler et ils savent ensuite mettre des amendes quand il faut. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays.
Et est-ce que le Brexit, concrètement, change la donne, puisque les pêcheurs français pouvaient aussi aller pêcher dans les eaux britanniques?
Alors pour le moment, il n'y a pas encore de conséquences du Brexit, puisque jusqu'à la fin de l'année, c'est le statu quo. Donc le Brexit a été acté, mais les changements vont avoir lieu à partir de 2021. Et c'est vrai que pour de nombreux pêcheurs français, notamment en Bretagne ou en Normandie ou dans l'Hauts de France, ça va changer du tout au tout. Puisque, par exemple, les pêcheurs de Boulogne, y compris les pêcheurs artisans qui, en 20 minutes ou en 30 minutes, sont dans les eaux britanniques, ces pêcheurs-là vont avoir des problèmes de chiffre d'affaires assez rapidement si jamais le Brexit signifie qu'ils n'ont plus le droit de rentrer dans les eaux britanniques. Il y a une petite conséquence autour des îles anglo-normandes avec, là, depuis quelques jours, l'exclusion des pêcheurs français, mais ça peut être réglé assez rapidement. Mais ça peut être un avant-goût de ce qui va se passer à un niveau beaucoup plus large en 2021. Et potentiellement, de très nombreux pêcheurs vont devoir mettre la clé sous la porte, puisqu'ils ne pourront pas aller pêcher ailleurs. Et ceux qui vont pouvoir continuer à pêcher vont se rabattre sur la côte française ou plus proche des côtes ailleurs en Europe. Et donc, on va aussi avoir, bien sûr, des conséquences environnementales importantes si jamais on n'arrive pas à avoir un accord entre le Royaume-Uni et la France ou les autres pays européens pour accéder aux eaux britanniques.
Christopher Coutenceau, est-ce que c'est une inquiétude là qui est palpable du côté de La Rochelle ?
Oui, de toute façon, c'est vrai que moi ça me touche quand même énormément de voir des artisans de la pêche se battre et se donner comme ils font, parce que c'est des métiers qui sont ultra durs, hein, et de les voir comme ça, petit à petit, périr par différentes lois, la ressource, et ça m'attriste, parce qu'il y a des familles, il y a des gens derrière qui prennent des risques et ils n'y arrivent pas.
Alors on pense bien sûr aux pêcheurs français et puis ce que vous constatez aussi vous sur le littoral, c'est les conséquences, les dommages collatéraux de cette surpêche vis-à-vis des autres espèces, hein, les oiseaux, les espèces qui se nourrissent des ressources de la mer, les mammifères marins qui sont aussi victimes de cet état des lieux.
Oui, complètement. Quand on voit sur le plateau de Rochebonne, au large de chez nous, qui est une des plus grosses frayères à bar et d'autres espèces, bien sûr, d'Europe, où on voit le massacre des dauphins, Par exemple, on pêche le bar en pleine période de reproduction, donc quand ils sont en train de se reproduire ou remplis d'œufs au pélagique. Et on pêche par accident des dauphins qui sont remontés vivants et emmaillotés dans les filets. On va leur casser le nez, couper les nageoires vivants, les gaffer et les rebalancer agonisant à l'eau. Enfin, moi je pense qu'au XXIe siècle, c'est comme si on allait à la chasse au bazooka et qu'on ramassait juste ce qu'on avait besoin puis qu'on laisse agoniser le reste. Enfin, je pense que savoir être et savoir vivre, ça reste important. On peut pas se comporter comme ça.
Alors restons un petit instant dans ces dernières minutes d'émission, peut-être à votre table, Christopher Coutenceau. On peut préciser que votre cuisine durable, elle se fait de bout en bout, c'est-à-dire que non seulement autour des produits de la mer, mais également en ce qui concerne les fruits, les légumes, le vin aussi. Je crois que dans votre cave, il y a des vins alors locaux, vous privilégiez aussi le terroir et puis des vins bio.
Oui, on est un phare de notre région. Un client qui vient manger chez nous à La Rochelle, c'est pour manger Rochelet. Donc, et on est là pour raconter une histoire. Donc, c'est pas juste un repas. Donc, oui, on va travailler les produits de la pêche locale et responsable, donc pêche à la ligne ou ramassage de coquillages à la main. Mais on travaille aussi les légumes qui sont faits anglier par Philippe Bailly, un agriculteur bio qui est un ami à moi, où moi je lui fais les listes et il plante, il travaille uniquement pour nous. Et on s'engage aussi à finir ses rangs, donc s'il nous fait deux rangs de carottes, et bon, on changera la recette ou quand il aura fini son rang de carottes pour pas lui en laisser sur les bras. Et puis les vins, oui, la région, c'est depuis une vingtaine d'années, c'est amélioré. Il y a des très très beaux et grands vignerons dans notre région, donc on les met aussi en avant, bien sûr.
Et donc, manger moins, mais mieux, hein, ce sera votre adage, peut-être à tous les deux, aujourd'hui, car on mange avec tous nos sens, hein, les yeux, le nez, la bouche et notre cerveau.
Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut accepter la complexité du monde. Et donc, il faut poser des questions, il faut s'instruire. Il ne faut pas simplement accepter des solutions trop simples. Si c'est trop simple, il y a un loup.
S'informer, Christopher Coutenceau, vous vouliez réagir, allez-y.
Qu'on dit consommer moins, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, consommer mieux et plus intelligent. On a quelques plats signatures au restaurant, ou par exemple la sardine de la tête à la queue, ou le rouget, ou là le merlu. Donc, par exemple, si on prend le merlu, donc en premier service, on va servir les joues du merlu. En deuxième service, on va servir la nageoire pectorale du merlu. Donc, toute cette chair fabuleuse, le meilleur morceau en plus, hein, qui est accroché au filet le long de la tête. Donc, bien sûr, à manger avec les doigts, même dans un 3 étoiles, voilà, on pousse les gens. Donc, c'est cuit sur l'os, c'est très très gras, c'est un des plus beaux... des plus belles parties du poisson. Et ensuite, en dernier, on va travailler le filet. On va travailler les écailles frites. On va servir aussi les arêtes et le bout de la queue frites pour apporter un côté torréfié, pour renforcer ce goût de poisson aussi et apporter la texture au plat, donc le croustillant. Avec les têtes, on va faire un bouillon ou une vinaigrette de têtes, je sais pas, de sardines torréfiées.
Et le tout mis en symbiose avec d'autres produits de la mer comme les algues, comme les salicornes, notamment. Mais apparemment, effectivement, on se régale. On va vous laisser regagner votre restaurant, hein, Christopher Coutenceau. Merci de nous avoir accordé ce temps précieux. Et donc ce restaurant à La Rochelle, un lieu en fusion et en symbiose totale avec la mer, on l'aura compris. Merci à vous.
Un grand merci, bonne journée.
Merci Christopher Coutenceau. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Patricia Kenouna et Philippe Borès-Santamaria, Christopher Coutenceau, cuisinier pêcheur, un livre paru chez Glénat. Et à la fin de votre livre, je précise que vous offrez un calendrier idéal de consommation des espèces. Et Frédéric Lemanac, pour plus d'informations, direction le site de l'association Bloom et celui, bien sûr, de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement et réécoute à votre disposition. Samedi prochain, deux artistes seront des nôtres, le dessinateur de presse Pierre Krull et la réalisatrice Colline Serrault, deux citoyens qui ont choisi de mettre leur art au service de leur engagement pour la planète.